France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, nous explorons les plaisirs du disco à l'occasion de la journée spéciale sur France Inter. Le disco, une musique née à New York et Philadelphie dans les années 70 et qui a d'abord fait danser les minorités noires, latino et gays dans ce qu'on appellera les discothèques, ces temples de la libération des corps où l'on pouvait danser sur les tubes de Gloria Gaynor, de Donna Summer, des Bee Gees, d'Abba, de Cérone. Notre invité, Belkacem Mezian, revient sur ces folles années qui ne cesse de nous faire bouger. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour.
Qui a bien connu les années disco. Vous étiez encore une jeune enfant.
J'en profitais assez peu, mais je l'ai connu.
Directrice de la rédaction du mensuel Et la Table, au menu ce week-end.
Alors au menu, dans le numéro actuel, des poireaux, des courges, de quoi enchanter l'hiver, du fromage fondu, des choses merveilleuses. Et on va parler d'un gratin de poulet, sauce tomate épicée mozzarella, de quoi faire swinguer ou danser disco, peut-être le poulet aussi.
Bonjour Chrissy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Journaliste et autrice de ces livres qui nous font du bien, quel est votre plaisir littéraire ?
Ah mais mon plaisir littéraire, c'est une BD qui nous raconte l'histoire du disco.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, musique disco, on danse sur la musique disco, donc une question, pourquoi dansons-nous ?
Bonjour Guimetto Dissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Un empereur, un roi, un Rital, un... Oh, je l'aime tellement, j'ai tellement bougé grâce à lui.
Il a un vague rapport avec le disco.
Carrément, moins que vague.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Qui a joué le jeu, qui a mis une perruque rose et un haut pailleté bleu. Bleu clin d'ailleurs.
Oui, exactement.
Comédienne et humoriste. Toujours aussi mauvaise langue en fin d'émission.
Tout à fait, et je vais vous raconter pourquoi c'est bien d'avoir les boules, certes, tant qu'elles sont à facettes.
Allez, à tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Encore bonsoir à tous, c'est le merveilleux Monty, votre disque jockey, qui vous rappelle le concours d'Universal Disco. Inscrivez-vous tous, oui, gagnez le prix.
Tony, formidable, t'es le roi ici, t'es super, t'es le plus grand.
J'en ferais autant si tu t'entraînais.
Ah ouais ? Je serais un bon danseur, tu crois, Tony ?
Attends, je réfléchis. Non.
Hey, Tony, est-ce que tu veux un stimulant ? C'est efficace, ce truc-là, tu sais, très efficace, je t'assure.
J'ai pas besoin de ça, ma drogue, c'est la danse.
Tony, est-ce que tu me permets de t'éponger le front ?
Bien sûr, allez, vas-y.
Qu'est-ce que j'aime te regarder danser, Tony ?
Hey.
Qu'est-ce que j'aime ça ! Oh, c'est fou ce que j'aime te regarder danser !
Allez, Tony, fais-lui une fleur à Dorine, invite-la à danser.
Excellente idée. Tu veux danser ? Ça te plairait de danser avec moi ? Je vais danser avec toi, Dorine.
Allez, Tony, vas-y !
La fièvre du
Ali,
samedi soir.
Je peux vous éponger le front.
Oui, si vous voulez, Guimette. Le film qui a popularisé le disco à travers le monde en 1977 avec John Travolta. Bonjour Belkacem Mezian.
Bonjour.
Vous êtes musicien, conférencier, enseignant, chroniqueur et auteur d'un très bon livre, Disco sans hit de 1972 à nos jours, aux éditions Le Mot et le Reste. Et on s'intéresse au disco ce matin à l'occasion de l'exposition Disco à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août prochain. Belkacem Mezian, où naît le disco ? Il naît aux États-Unis, du côté de New York et de Philadelphie, au début des années 70. Pour le dire vite et pour schématiser.
Ne vous inquiétez pas. Il naît plutôt à la fin des années 60, particulièrement à New York, avec des ascendances européennes, une culture qui s'est créée plutôt en Europe, mais pas de manière aussi importante que ce qui s'est passé à la fin des années 60, dans des endroits qui étaient sélects, qui concernaient une jet set de gens très aisés, et de l'autre côté des gens un petit peu plus marginaux, enfin quasiment marginaux qui n'avaient pas accès à tous les endroits. Et donc, vous en avez parlé, la communauté homosexuelle, la communauté noire, latine aussi, qui vivait dans les mêmes quartiers que les Noirs. Et donc, c'est à partir du milieu et de la fin des années 60.
Et vous regrettez dans votre livre, Belkacem Meziane, que le disco n'ait pas une place majeure quand on évoque les courants successifs de la musique noire américaine au XXe siècle.
Je le déplore parce que, à force de lire des choses sur le disco, on le tire un petit peu trop vers ce qu'on appelle la pop musique, une appellation beaucoup plus globale. Et quand on entend ce qu'on est en train d'entendre en fond, le Trump, c'est vraiment des gens qui viennent du gospel, de la soul music. C'est parfois eux, comme les OJs ou d'autres groupes qui ont œuvré énormément pour le disco, c'est des gens qui ont fait des singles dans les années 60 totalement soul. Et en fait, l'évolution de ce qu'ont proposé Motown, le label de Philadelphia ou d'autres gens qui ont œuvré pour le disco, on dit eux-mêmes: nous, on n'était pas en train de créer le disco, on est en train de continuer la longue route du rhythm and blues.
Et d'ailleurs, deux producteurs de musique, Kenny Gamble et Leon Huff, disent à propos du disco, je les cite, « Nous avons mis un nœud papillon au funk ».
Oui, parce qu'ils ont énormément œuvré aussi pour ajouter des orchestrations symphoniques, beaucoup de violons, beaucoup d'instruments qui n'étaient pas forcément utilisés dans la soul music, le hautbois, le vibraphone, la harpe, des choses qu'on n'entendait pas toujours dans la soul music. Et eux ont considéré, comme Barry White, comme d'autres gens qui ont fait beaucoup de musique arrangée, très symphonique, voilà, on peut dire qu'ils ont rendu ça un peu plus classe.
Alors Belkacem Meziane, là on entend Chic, Good Times. D'ailleurs Chic, c'est votre groupe de disco préféré, hein.
C'est un groupe qui est immense parce que eux aussi, lui, Nile Rodgers, le guitariste, et Bernard Edwards, qui sont vraiment les deux piliers de ce groupe-là, ont une trajectoire aussi qui vient. Enfin, ils viennent du rock, du jazz, de la soul. Et en fait, quand ils ont commencé à faire, on va dire, du disco, ils l'ont fait de manière très élégante, en copiant un petit peu Roxy Music, si vous voyez le groupe de Brian Ferry, en termes d'élégance, en prenant les voix qu'on avait l'habitude d'entendre un petit peu plus en Europe que vraiment des voix gospel. Ils voulaient mettre le groove en avant. Et en fait, c'est une espèce d'hybride entre le funk, le disco, mais c'est une formule qui marche énormément.
Alors, vous le rappelez dans votre livre, le disco naît dans les discothèques et touche peu à peu toutes les couches de la population américaine, les blancs, les noirs, les latinos, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les gays, les hétéros. La piste de danse devient un véritable lieu de paix et de réconciliation dans une société fortement communautarisée.
Oui, de toute façon, les États-Unis fonctionnent comme ça, et à New York particulièrement, parce que c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est à New York d'abord, ni à Philadelphie, ni à Los Angeles, c'est vraiment à New York que ça s'est déroulé. Il y a des quartiers plus ou moins pauvres, des quartiers justement où il y a des noirs, etc., etc. Et sur le dance floor, on rencontre, enfin sur la piste de danse, pardon, on rencontre vraiment toutes ces communautés-là qui vont œuvrer pour le disco, en fait avec un héritage des années 60. Sans aller trop loin, il y a la contre-culture, les beatniks, la philosophie hippie, les droits civiques, tout le bouillonnement culturel, le philosophique, politique qui s'est passé dans les années 60, la résultante est le disco.
Parmi les clichés qui vous agacent sans doute sur le disco, c'est de réduire le disco aux paillettes et aux boules à facettes en oubliant qu'il s'agit d'un manifeste de la libération des femmes et des minorités ethniques et sexuelles.
Ben oui, et puis en fait, un bouleversement de tous les codes de la morale de la société blanche américaine. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant 10-15 ans, on va dire, on remonte à peu près au milieu des années 50 pour les droits civiques. Pendant une quinzaine d'années, il y a eu des combats énormes, des victoires, d'autres combats qui ont été plus difficiles à gagner. Mais vraiment, le disco, c'est la mise en réalité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, la concrétisation plutôt, pardon, de tous ces idéaux. Donc c'est vraiment de ces utopies. Et donc c'est une musique, pour moi, qui d'abord a été très militante.
Allez, on continue à se plonger dans les plaisirs du disco avec Christyla Pelédouel et son plaisir littéraire. Alors Christyla, votre plaisir littéraire du week-end, eh bien c'est une BD.
Oui.
Ça s'appelle Disco aux éditions Petit à Petit.
J'ai trouvé la BD. Et la BD est vraiment, c'est très sympa, c'est l'occasion de se plonger dans l'histoire illustré, évidemment, du disco. Et c'est, les auteurs ont fait tranche par tranche, si j'ose dire, c'est-à-dire groupe par groupe, chanteur par chanteur, tendance par tendance, avec une page qui est destinée, qui est plus rédigée, destinée à l'histoire elle-même, et puis l'illustration en BD. Voilà, alors moi j'ai appris plein de trucs là-dedans. Je ne suis pas une super spécialiste comme vous, mais j'ai appris, entre autres, par exemple, que Barry White, que je pensais être un chanteur né depuis toujours, et ben non, il a commencé par être producteur. Est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? Et il a commencé à chanter après, parce que ses coproducteurs lui ont demandé, ayant repéré sa voix, de s'y mettre. Et alors après, ça a été l'explosion qu'on a connue et cette espèce de géant à tout point de vue de la musique disco. Voilà. Et puis évidemment, alors, mes favoris au-delà de tout sont les Bee Gees. Et là aussi, j'ai appris plein de choses. Entre autres que leur nom, ils se sont un peu creusé la tête pour trouver leur nom. Et c'est tout simplement la contraction de leur nom de famille. Mmh. Voilà, tout bêtement. Et puis plein de choses comme ça, sur Gloria Gaynor, sur Donna Summer, sur leurs origines sociales, sur la manière dont elles se sont emparées de la musique disco et dont elles l'ont transformée. Et c'est vraiment bien, voilà. C'est vraiment, c'est pour le week-end, c'est parfait.
Il faut préciser qu'il s'agit de différents dessinateurs réunis pour ce projet.
Absolument, c'est un groupement de dessinateurs et d'auteurs, d'ailleurs. Il y a un auteur qui a tout coordonné. Et c'est très bien, ça marche pour les adultes et ça marche aussi très bien pour les ados qui auraient envie de se plonger dans cette musique des parents.
Ça s'appelle donc Disco et c'est aux éditions Petit à Petit. Elle ne rêve, merci beaucoup Christine Appelé-Douel, elle ne rêve que d'une chose, c'est de danser quand le disque va arriver là, dans quelques minutes. Hein. Mais bon, en attendant, il faut que vous fassiez votre chronique et que vous nous présentiez votre ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors mon cher Ali, vous savez que j'aime les Italiens.
Ah oui.
Marcello, Vittorio, Roberto, Nanni. Beaucoup d'hommes en noir et blanc, hein, raffinés et élégants. Mais il y en a un autre. Alors nettement plus robe à paillettes. Pas toujours de bon goût dans ses créations. Un type à moustache qui a préféré la machine aux hommes. Mais son prénom rime pour l'éternité avec le disco.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Oh, excusez-moi, je vais en coulisses danser 5 minutes, je reviens. Giorgio Moroder, redevenu culte grâce à ce qu'on entend là, grâce au Random Access Memories de Daft Punk en 2013, et qui sera notamment à l'honneur de l'expo de la Philharmonie de Paris consacrée au disco jusqu'au 17 août 2025. Alors, ce natif du Tyrol italien, a appris la musique et la guitare en autodidacte à 15 ans. Bon déjà, ça me saoule, comment on peut faire ça tout seul? Il commence sa carrière comme bassiste de Johnny Hallyday dans les années 60, puis se met à composer, sort plusieurs albums, plutôt pop d'ailleurs, avant qu'une rencontre change la donne. Avec le musicien anglais Pete Bellott, il se met au disco à Munich. Vous parlez de Philadelphie, de New York et tout, bah lui c'est à Munich. Hein. En 1973 d'ailleurs, les deux hommes passent une annonce pour trouver une choriste. Et c'est l'épouse du peintre autrichien Helmut Sommer qui répond. Bon alors en fait, elle s'appelle Ladonna Adrienne Gaines. Elle est née dans le Massachusetts. Elle vient du gospel. Et Giorgio américanise vite fait son nom marital en Donna Summer. Pour elle, il triture ses synthétiseurs. Il cherche le clic, comme il dit, et pim, après un premier album, Lady of the Night, suivra la chanson Love to Love You Baby. Vaguement inspirée du Je t'aime moi non plus de Gainsbourg, avec Donna qui suggère de chanter le morceau un octave plus haut que prévu, entre deux gémissements sexy. Alors il paraît que certains orgasmes étaient si intenses que Giorgio n'a pas osé les garder sur la bande, mais qu'ils existent encore quelque part sur une cassette. Et puis il y aura I Feel Love, qui prouve à lui seul qu'une machine peut occasionner des sueurs érotiques. Et ce Hot Stuff qui dit « Je recherche quelque chose de chaud, baby, ce soir. J'ai besoin de quelque chose de chaud, baby, ce soir. »
Calmez-vous, oui, bon. Alors ce ne sont pas les seuls tubes de Giorgio Moroder, hein.
Franchement, Ali, j'aurais pu mécaniquement enchaîner les titres de ce génie sans écrire un mot de plus. J'aurais ajouté quelques boucles électro et ma chronique serait le prochain tube du dance floor. Mon Giorgio, ensuite, s'est installé en Californie parce que Munich, ça manquait de sequins sur la robe moulante. Enfin, même si les plus grands groupes de rock, comme les Rolling Stones, Deep Purple, Led Zepp, Queen, continuèrent d'enregistrer dans les studios qu'il avait créés dans la ville allemande. Lui, au bord de sa piscine, il écrit quoi ? Des tueries pour le cinéma. Il fait chanter Blondie sur Call Me dans American Gigolo en 1980, Irene Cara sur What a Feeling dans Flashdance en 1983, et compose la BO de Scarface. Et la liste des artistes avec lesquels il a collaboré, de Bonnie Tyler à Lady Gaga en passant par Nina Hagen, est aussi longue qu'un remix de Bruno Mars. Vous savez quoi ? Ce type, qui a aujourd'hui 84 ans, a toujours détesté danser. Mais sachez que dès que vous vous déhanchez, dès que vous rejetez vos cheveux en arrière en mode disco, dans chacun de vos mouvements, dans chaque once de votre plaisir, il y a toujours un peu de Giorgio.
Belkacem Meziane, réaction à la chronique de Guillemette Odissino ?
Bah déjà, c'était chaud, bravo.
Merci.
Je vais pas me permettre le même ton. Juste rajouter qu'il est parti à Munich, c'est pas pour rien, c'est que Munich c'est un temple, enfin c'est une capitale de des musiques électroniques. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de Munich et qui vont transformer le disco. Donc ça c'est une chose. Et Giorgio Moroder a fait... Et la personne, il y a Céron aussi, il y a d'autres personnes.
C'est
qui
mon
ont...
autre chéri.
Ben c'est... Je vous le laisse.
L'ami du vendredi de Guillemette Odissino a podcasté sur l'appli Radio France.
France Inter.
Non, je crois qu'on ne s'est pas compris sur le disco. Non, le disco, ça rentre par les cheveux, ça ressort par les pieds. Le disco, c'est une religion.
Grand bien vous fasse.
Grand bien vous fasse week-end et on célèbre ce matin le plaisir du disco en compagnie de Meziane Belkacem qui publie Disco 100 Hits de 1972 à nos jours à l'occasion de la journée spéciale disco sur France Inter et de l'expo disco à la Philharmonie de Paris jusqu'en août prochain. Belkacem Meziane, ce qui est intéressant avec le disco, c'est que son succès ne se construit pas à la radio, mais passe dans les discothèques, hein, dans les années 70. C'est là que ça se passe pour le disco, pas à la radio, dans les boîtes de nuit.
Au début, en tout cas. Et c'est comme ça qu'on peut dire aussi que le DJ est vraiment un personnage central de la culture disco. Parce qu'il y a aussi, il faut diviser, enfin séparer la culture disco et la musique disco. Ça, c'est deux choses, si on avait un peu de temps, c'est vraiment très intéressant de
Dites
voir.
Dites-nous la différence.
La différence, c'est que justement, toutes les premières années, le format disco, dont on peut parler aussi, c'est-à-dire le beat avec la grosse caisse sur tous les temps martelée, avec la pédale Charleston sur les contretemps, enfin vraiment ce beat à 120 BPM, c'est-à-dire le tempo, qui est assez immuable pendant quelques années, ce format-là n'existait pas au début. Mais la culture disco existait, donc ça veut dire que les lieux existaient, voilà, toute la dynamique, la présence des DJ, les disques rares qu'ils essayaient de mettre, etc., etc. Ça, c'est la culture disco. Et au tout début, les DJ passaient des disques assez rares. Et je vais prendre l'exemple d'un morceau qui s'appelle Love Stem, qui est une production Barry White, un morceau instrumental qui a été rajouté sur un disque où il n'y avait pas assez de morceaux. Il a rajouté cet instrumental sur un album vocal de Love Unlimited. Et le DJ Nicky Siano, qui est un grand, grand DJ de cette époque-là, l'a trouvé. Un peu par hasard, l'a mis sur sa platine et a trouvé que c'était un morceau qui dépotait. Et donc chaque soir il le mettait, enfin, chaque soir où il mixait. Et ce disque ne passait pas du tout à la radio parce que c'était pas un single, c'était un instrumental, quelque chose d'assez rare. Et en fait ce titre est devenu numéro 1 aux États-Unis, au top US. Donc pour expliquer justement l'influence qu'a eu Nicky Siano et d'autres DJ sur... l'avenir de ces disques.
Et puis la grande particularité du disco, c'est qu'il s'agit d'une musique plutôt conçue en studio avec l'intervention d'un producteur, d'un arrangeur et de musiciens maison.
Exactement. Le disco est un produit. Alors ça peut être pris de manière péjorative. mais c'est aussi c'est comme ça qu'a fonctionné le label Motown, c'est comme ça qu'ont fonctionné beaucoup de styles de musique. Et donc le produit disco est d'abord l'invention, la création d'un compositeur, d'un producteur et d'un arrangeur. Et donc c'est là aussi où c'est important de voir aussi la différence entre ce qui se passe à Philadelphie avec des violons, avec une musique totalement acoustique qui est enregistrée quasiment en live, et les productions de George Moroder qu'on vient d'entendre à l'instant, qui est quasiment tout seul en fait en studio à gérer. Donc ça veut dire que le titre est plus important que la personne qui va aussi l'interpréter. On avait ça aussi chez Motown, c'est-à-dire que quand on a un morceau qui est joué...
Le grand label de musique noire américaine.
Et merci beaucoup, pardon. Et donc on a The Temptation, Marvin Gaye ou Gladys Knight qui vont tous les trois enregistrer le même morceau, et selon les goûts du patron, on va sortir la version des Temptations ou autre. Donc ça veut dire aussi que la chanson prime, l'arrangeur prime, et ensuite il y a l'artiste.
Belkacem Mezian, la première vraie star du disco, c'est Gloria Gaynor.
On peut dire ça. On peut dire ça, puisque le 26 octobre 1974, il y a le Top Disco Action, le premier classement qui référence les titres les plus joués le vendredi et le samedi dans les 10 discothèques les plus importantes de New York. Et c'est elle qui arrive numéro 1 du premier Top Disco, qui est devenu petit à petit le Top Dance. Donc c'est vraiment la première star du disco officielle.
I Will Survive, qui a été créé en 1978. Tiens, quelle est l'influence, on parle beaucoup des États-Unis depuis le début de l'émission, quelle est l'influence de l'Europe dans le phénomène disco, quand on sait que les premières discothèques sont nées en France, en Allemagne et en Angleterre ?
Alors, ce qu'il faut comprendre encore une fois par rapport à la culture disco, c'est la différence... Un dance floor, on danse sur une piste de danse dans des discothèques, on danse sur des disques, sur un DJ qui passe des disques. Alors qu'aux États-Unis, on avait plus l'habitude d'avoir des grands orchestres. Et donc ça, c'est une différence qu'il y a avec l'Europe. L'Europe, déjà dans les années 40, avec les Zazou ou les Swing Jugend, je vais le dire avec mon accent allemand, aimait le swing, mais il n'y avait pas assez d'orchestres de swing en Europe. Donc ils étaient obligés de faire des soirées avec... des disques dont ils disposaient. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on rapproche la culture disco de l'Europe. Mais il y a un gros phénomène, si ça s'est passé en France et en Allemagne, il y a vraiment un gros phénomène qui se passe en Angleterre quelques années avant, ce qu'on appelle la Northern Soul. C'est un mouvement qui a été très important et très influent, puisqu'il a procédé quasiment de la même manière avec l'influence des DJ, la rareté des disques et les prises de drogue aussi, d'amphétamines. Et aussi beaucoup de danse qui était conçue, et ça se passe en Angleterre.
Rappelez le nom du mouvement.
La Northern Soul, la Soul du Nord, mais bon, c'est parce que ça se passe à Manchester, etc. Et en fait, c'est un courant qui a été très important, et les personnes qui ont œuvré à cette époque-là vont rester tellement importantes que dans les années 80, Yann Levine ou Stock, Aitken & Waterman, qui ont produit Kylie Minogue et d'autres personnes, viennent de la Northern Soul. Donc il y a une connexion directe avec le disco et aussi avec ce qu'on appelle la high energy, qui est l'évolution du disco.
Alors, Belkacem Mezian, quel rôle a joué le film La Fièvre du Samedi Soir, Saturday Night Fever, avec John Travolta en 1977? C'est le film qui a contribué à l'expansion mondiale du disco?
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi le film qui a imposé des images d'Épinal qui n'étaient pas forcément...
Un peu lisse.
Peut-être un peu lisse, oui, bien sûr, parce que particulièrement au début, il y avait des clubs où on trouvait des fouets, des menottes, du gel, des salles où on pouvait se fouetter. Donc au début du disco, il y a une volonté aussi d'offrir à des communautés marginales, marginal, je le dis avec des gros guillemets, d'assouvir leur sexualité tout simplement, et donc ça pouvait aller très très loin.
Mais vous écrivez que dans le 2001 Odyssée, la boîte de nuit fréquentée par le personnage interprété par John Travolta dans La Fièvre du Samedi Soir, eh bien ce club ne ressemble pas vraiment au club gay rythmé par la drogue, le sexe, ou encore au club select de la jet set qui diffuse également du disco.
Exactement, le studio 54 54, c'est pas du tout ça. Le studio 54, c'est des Mick Jagger, des Andy Warhol et toutes ces personnes-là qui y vont. Là, c'est vraiment. Mais par contre, c'est réel et c'est ce qu'on a aussi en France, ce qu'on va avoir aussi en France, des clubs où les ouvriers de base peuvent aller danser.
Parce que le disco et l'expo à la Philharmonie de Paris et le catalogue, le très très beau catalogue publié aux éditions de La Martinière le montre bien, c'est que le disco est intimement lié à l'exultation des corps, exultation dans tous les sens du terme.
La danse et les drogues aussi, les drogues.
Guillemette Odissino.
Oui, mais c'est fascinant d'ailleurs de revoir maintenant La Fièvre du Samedi Soir. Enfin, parce que c'est vrai que cette image d'Épinal, de Travolta avec ses talonnettes, ses pantalons pas de def, là, qui marchent comme on a l'impression qu'il danse même quand il marche et tout. mais en même temps, il y a quelque chose d'assez violent dans le film quand même, sous-jacent. Franchement, c'est pas un film si policé que ça. En fait, c'est un film assez social sur la violence sociale, parce que ce type en fait est vraiment un prolo. Et autour de lui, la violence est là. D'ailleurs, on l'a entendu dans l'extrait au tout début de l'émission. On lui propose immédiatement de la drogue pour soi-disant mieux danser. Il prétend qu'il n'en a pas besoin pour exulter à sa manière. Mais enfin, c'est un film assez important aussi qui a montré au plus grand nombre certaines justement zones grises du divertissement.
Belkacem Meziane.
J'acquiesce, totalement.
Chrissy Lapelle-Edouel.
Il y a aussi autre chose, vous avez parlé de l'image qui a été donnée par ce film, et un truc très important, c'est l'aspect esthétique. Ce film a imposé une esthétique, l'esthétique du disco, du costume, d'une espèce de folie pleine de lumière et tout ça. Et ça, c'est vraiment entré dans la culture populaire et pas seulement de certains spécialistes de la musique et tout ça.
Daniel Jerkens de Elle à table.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ce genre de film a fixé aussi une esthétique qui s'est développée tout au long des années 80 je parle même d'un point de vue capillaire, etc. Et concernant La Fièvre du Samedi Soir, il y a vraiment cette histoire de violence. Moi, je l'ai fait regarder à ma fille qui avait 8 ans en ayant comme ça sur un soir. On se dit, oh tiens, on va regarder la Fièvre du Samedi Soir, etc. Et en fait, en revoyant ce film, on a réalisé effectivement la noirceur, la condition féminine. En fait, il y a une violence hallucinante sous une espèce de vibrato complètement incroyable.
Vous avez complètement raison. Moi, je l'avais revu récemment. Il a été rediffusé sur Arte. Ouais. Et c'est vrai que cette noirceur, elle saute aux yeux plus de 40 ans après la sortie de ce film. Bonjour Victorine de Oliveira. Bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine. Vous êtes allé voir l'expo disco à la Philharmonie de Paris. Qu'avez-vous ressenti en sortant de cette exposition? Peut-être la sensation de sortir d'une bulle enchantée?
Oui, c'est exactement ça. On voit des néons, on voit des paillettes. Alors après, c'est un peu le cliché sur le disco, mais comme vous l'avez dit là depuis le début de l'émission, ça n'est évidemment pas que ça.
Ce n'est pas une bulle de frivolité pour vous?
Non, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de présenter le disco, voilà, comme de la musique légère qui sert à uniquement faire danser les gens. Alors déjà faire danser les gens, je ne sais pas si vous avez déjà organisé des soirées chez vous, c'est pas si évident en réalité. Pour lancer 20, 50, 100 personnes sur une piste de danse, voilà, c'est pas si facile. Et en fait, à cette époque, on a envie de faire danser les gens longtemps. Donc, vous l'avez dit, hein, au cours de l'émission, la musique disco, elle se diffuse essentiellement dans les discothèques et pas à la radio d'abord. Donc, on est un peu libéré d'un certain carcan qui fait que, en fait, les morceaux peuvent prendre beaucoup de place. Et pour que les gens dansent pendant une heure, cinq heures, sept heures, c'est bien si, en fait, on enchaîne les morceaux, si on fait en sorte qu'il n'y ait pas de pause, qu'on a des climax, des temps un peu plus détendus, etc. Et les DJ, en fait, vont vraiment travailler là-dessus.
Vous écrivez sur le site de Philomag que le disco entretient un rapport au temps tragique.
Oui, alors c'est un rapport au temps déjà qui est un peu d'abord hédoniste, hein, vous l'avez dit, on veut danser, on veut tirer la nuit jusqu'à la dernière seconde, on veut faire en sorte d'oublier les tracas, on veut faire en sorte d'oublier que le lundi matin il va falloir retourner au travail, etc. Mais c'est aussi un temps, ce qui m'a donné l'idée en fait, c'est que dans le disco il y a beaucoup de choses qui tournent. Il y a la boule à facettes d'abord, et puis il y a un truc moins évident, c'est que à cette époque-là aussi, ce qui permet d'ailleurs aux DJ de mieux mixer et de faire des mix beaucoup plus fluides, c'est qu'apparaissent les platines, alors c'est un peu technique, mais les platines entraînement par courroie, et donc cette courroie, sans entrer non plus dans les détails, elle permet en fait de faire des mix beaucoup plus fluides, des morceaux qui s'enchaînent sans qu'il y ait un temps de pause ou un truc un peu parasite, des bruits parasites, vous voyez. Donc la courroie aussi, elle tourne. Et donc on a un peu cette image comme ça, de quelque chose qui tourne sur soi-même. Et ça m'a fait penser en fait à ce que dit Nietzsche quand il parle de sa doctrine de l'éternel retour, c'est-à-dire que, alors, si on redonnait du sens à l'existence dans un monde qui est débarrassé des arrière-mondes, de Dieu, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on peut imaginer que le temps, notre vie, se répète indéfiniment. Et alors, cette conception, elle peut donner soit de l'effroi, parce qu'on se dit, mon Dieu, on va revivre absolument toutes les horreurs qui nous sont arrivées, mais aussi, ça signifie qu'on va revivre les meilleurs moments. Et ces meilleurs moments, bah, ça peut être une fête disco, ça peut être un moment où on a exulté, on s'est senti dépassé, on a senti, alors avec l'aide de substances ou pas, peu importe, mais on s'est senti sortir de son propre corps.
Victorine De Oliveira, vous n'avez pas connu les années disco au Studio 54 à New York ou au Palace à Paris dans ces années-là, mais vous aimez le disco. Et quel est votre tube disco préféré et pourquoi ? Alors, on va l'écouter, peut-être. Allez-y.
Je ne sais pas si c'est un tube, mais j'adore ABBA, globalement, et j'adore The Winner Takes It All, que vous diffusez. ABBA, je trouve que c'est un exemple, de ce mépris, parfois, dont souffre le disco, parce qu'on a dit, c'est léger, les paroles sont ineptes. Alors oui, c'est vrai que les paroles, souvent, c'est pas du Shakespeare, quoi. Mais, alors, dans The Winner Takes It All, pour le coup, on a quand même une vraie histoire très, très triste. Puis on a des arrangements exceptionnels, avec des textures instrumentales vraiment travaillées. On a une mélancolie profonde, ce côté tragique. Alors peut-être que cette analyse, elle vient du fait que je connais la fin. C'est un peu un mauvais biais d'historien, en quelque sorte. On sait que la fin du disco, ça va être les années sida, ça va être la disparition de beaucoup de gens qui ont contribué à créer cette bulle festive et merveilleuse. Mais il y a quand même cette mélancolie, je trouve, qui travaille toujours en profondeur le disco en général, et ce morceau de façon assez évidente, je crois.
Bon, pour ma part, je ne cesse d'aimer danser sur Dancing Queen d'ABBA. Quelle est la place d'ABBA dans l'histoire du disco, Belkacem Mezian ?
ABBA, c'est un peu comme les Bee Gees. Ce sont des gens qui ont fait de la pop ou du folk pour les Bee Gees avant de devenir disco. C'est là où on peut revenir à la question de tout à l'heure par rapport au gros bloc black music. C'est que justement, à partir du moment où il y a des personnes qui se sont emparées de ce beat, de cette formule, format même carrément, là on a commencé à plus voir le disco comme une suite de la musique noire américaine, mais ABBA, les Bee Gees et puis d'autres, Village People, peut-être, c'est pour moi, ça fait vraiment partie de l'histoire du disco, et c'est prodigieux. ABBA, pour moi, c'est prodigieux.
Je partage votre goût, Belkacem Mezian. À partir de quand, tout de même, le disco apparaît comme ringard, dépassé? Il y a même eu un mouvement anti-disco, de haine du disco, fortement imprégné d'homophobie et de racisme. Le disco, vu par certains de ses détracteurs, comme un produit destiné, je cite, aux PD et aux nègres.
Vous citez bien. On ne dit plus ces mots-là à la radio, mais on va les utiliser aujourd'hui, parce qu'il y a une branche des fans de rock et des DJ de rock, pas tous, mais il y a une branche qui a été complètement hermétique et voire violente envers le disco, et qui a culminé avec la Disco Demolition Night, le 12 juillet à 79 à Chicago, où il y a eu un gros événement où on a fait exploser des disques à la mi-temps d'un match. Donc cet événement est plus long à expliquer, il est plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir. On y voit souvent l'homophobie, le racisme, ça c'est indéniable, il n'y a aucun souci, mais je pense que, en tout cas c'est mon parti pris, si on pousse un peu plus l'analyse, il y a des critiques artistiques, stylistiques, et il y a des critiques aussi au niveau de l'industrie. Et rappelons-nous qu'on est aux États-Unis et que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que du vert, c'est-à-dire la couleur du dollar. Et donc, à partir du moment où l'industrie du disco devient quasiment aussi importante que celle d'Hollywood, il y en a qui commencent à dire « Non, là, c'est plus possible. » Donc, raciste, homophobe, ça, on peut le dire clairement, mais il ne faut pas s'en réduire à ça, pour moi, en tout cas. «
Belkacem Meziane, pourquoi avez-vous choisi You Make Me Feel de Sylvester, sorti en 1977?
Parce que pour moi, c'est déjà... Il y a le personnage de Sylvester qui, pour moi, est un des plus grands artistes de disco. C'est un type qui a fait avancer les mentalités énormément, qui s'inscrit vraiment dans cette histoire par rapport au fait qu'il était travesti, qu'il était noir lui-même, venait du gospel, de la comédie musicale. Enfin, il y a énormément de choses, mais c'était surtout pour parler d'un monsieur qui s'appelle Patrick Cowley, qui est son producteur, on va dire, à ce moment-là, et qui est, comme Giorgio Moroder, quelqu'un qui a fait basculer le disco vers l'électro. Et là, on entend déjà qu'on est à plus de 120 BPM et qu'on commence à arriver vers ce qu'on appelle la high energy. Donc pour moi, Sylvester et ce titre-là en particulier a montré plein de choses, a fait le bilan des années disco et a présenté l'avenir de ce qui allait être le disco, tout simplement.
Vous, Guillemette, plaisir permanent quand vous écoutez Supernature de Céron.
Ça me fascine quand même, parce que quand même, Céron est né à Vitry-sur-Seine. voilà. Moi, je me spécialise que dans les types qui font Munich, Vitry-sur-Seine. Moi, je veux pas entendre parler de New York. Non, mais enfin, Vitry-sur-Seine. Non, mais ce morceau est absolument... Là, moi, ce que je trouve avec ce morceau, c'est que c'est vers la fin, hein, c'est 77, mais il y a quelque chose qui est vraiment du domaine du vertige, de la boucle sans fin dont on parlait tout à l'heure. Cette espèce de boucle qui fait que vous tournez sur vous-même, quitte à tomber. Il y a vraiment, on est au niveau de l'hypnose. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans ce morceau disco.
Alors vous, Daniel Jerkens, vous vous ruez immédiatement sur la piste de danse quand vous écoutez September d'Earth, Wind & Fire.
Oui, enfin globalement, je dois avouer que je me précipite sur la piste, sur tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et je trouve assez dommage d'ailleurs qu'on en... Enfin, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, que c'est des musiques qui rassemblent, des musiques sur lesquelles on danse. Depuis 20 ans en France, et spécialement depuis le Covid, les discothèques ferment, toutes. Il en reste très très peu finalement. Et j'ai l'impression qu'on a perdu aussi, comme vous le disiez, des lieux de rassemblement. Et des lieux finalement extrêmement festifs, au-delà de catégories de communautés.
D'ailleurs, c'est du disco ou de la funk ce qu'on entend là? On est à la limite. Allez-y, Belkacem Meziane. Je sens à votre regard.
J'étais à deux doigts de prendre mon manteau et de repartir d'ici.
Je suis désolée, je suis contrite.
Non, je plaisante. Non, mais Earth, Wind & Fire, c'est toujours la petite limite, moi, qui me pose problème. Je relisais encore des choses de Maurice White hier soir et lui-même était très.
Qui est ce monsieur?
Ah, pardon. Ah, vous n'êtes pas tous au courant que Maurice White était le leader d'Earth, Wind & Fire.
Ah,
bon,
oui. Voilà.
Je vais revenir chaque semaine faire une petite chronique. Je m'auto-embauche, non, je plaisante. Mais Earth, Wind & Fire, mis à part Boogie Wonderland et peut-être September, je vais vous l'accepter parce que vous m'avez bien accueilli. On va dire que c'est pas un groupe de disco. Et c'est vraiment. Et pour en revenir à cette BD que vous présentiez tout à l'heure, ils en font un peu trop sur Earth, Wind & Fire alors qu'il est vraiment pas représentatif, ce groupe du disco.
Tiens, vous allez nous dire si ça, c'est du disco pour vous ou pas
Dans le hors-piste total, là.
Non.
Voilà.
Ne serait-ce que pour la robe.
Dalida, mourir sur scène, c'est le choix de Sandra Colombo.
Oui, tout à fait, c'est la mort que je voudrais. Hein. Je suis comédienne, mourir sur scène, quoi de mieux? Et puis, pardon, pour moi, c'est exactement ça le disco, c'est-à-dire parler de choses qui sont souvent tragiques, douloureuses, etc., avec de la paillette, de la lumière et une envie folle de danser sur ça.
Belkacem Meziane,
je vais essayer de pas vous tourner le dos pendant toute l'émission parce que je l'ai fait depuis le début pour regarder Ali. Je dirais juste que Dalida était peut-être la première artiste en France à faire un titre disco qui s'appelle J'attendrai, qui est un morceau de Jean Sablon qui était repris en disco, et donc le disco en France tient de Sheila et de Dalida bien avant Céron, et c'est pas du tout la même dynamique parce que lui a créé quelque chose et etc. Mais en tout cas Dalida ou Sheila ont amené ça à partir de 74-75.
Belkacem Meziane, on va écouter Lionheart de DJ Corey et Tom Greenham. Vous allez me dire si c'est le disco d'aujourd'hui et quels sont les héritiers du disco aujourd'hui. Delkessen Mesian.
Oui, c'est dans la lignée du disco, bien sûr, évidemment.
C'est de la dance, hein?
Oui, c'est de la dance. Et bah, tous ces courants, que ce soit house, techno, et les French touch, dance, euro dance, italo disco, il y a énormément d'étiquettes un peu différentes.
Ce sont les héritiers directs du disco.
Bien sûr. De toute façon, le disco a tellement marqué. Et il y a un petit truc qui est assez important de dire, c'est que quand on danse sur la musique de James Brown, quand on danse sur de la salsa, on n'a pas forcément les repères pour danser. Le disco ne nous laisse pas tomber, quoi. Moi, je suis le pire danseur autour de cette table, j'en suis sûr, mais on a ce beat, voilà, exactement, on a ce beat qui nous permet en tout cas de jamais perdre le fil, et c'est pour ça aussi que ça a été on a capitalisé dessus pendant des décennies, parce
que tout le monde se rue sur la piste de danse à chaque fois.
Bien sûr, et même moi.
Une fois qu'on peut ne pas être ridicule.
Il adore danser, philosopher. Il fait les deux divinement bien, Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, rend bien vous face.
C'est pas un truc d'un télo, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Thibaut, pour vous, le disco, c'est surtout une musique pour danser, et vous vous demandez donc pourquoi nous aimons danser.
Oui, j'avais pensé faire une chronique dansée, mais je me suis dit que c'était pas très radiophonique, alors finalement, je vais juste essayer de vous raconter deux, trois trucs. Dès les premières notes, la musique disco, donc on l'a dit, remplit les pistes de danse des boîtes de nuit, des salles des fêtes, des mariages ou des fêtes à la maison. C'est une musique festive et joyeuse qui célèbre le plaisir d'être ensemble. Alors, à première vue, si l'on va danser, c'est tout simplement donc pour participer à la fête, et que l'on aime danser ou pas, la danse s'impose d'abord comme une activité collective, comme l'expression d'une appartenance et d'un moment partagé. Et si vous ne dansez pas, eh bien très vite, on va vous reprocher de ne pas être drôle et de rabattre la joie de l'instant. Quand bien même la timidité nous retient et que l'on reste assis à regarder les autres danser, il faut bien reconnaître que le spectacle des autres qui dansent donc est assez hypnotique. Pourquoi donc l'appel de la danse est-il si fort? Pourquoi certaines musiques semblent irrésistibles? Pourquoi les bons danseurs ou les bonnes danseuses nous fascinent-ils ou elles? Que se passe-t-il au fond quand nous dansons?
Peut-être parce que danser, c'est l'expression d'une certaine confiance en soi.
Oui, assurément. Lorsque l'on danse, on se livre le plus souvent au regard des autres, en un ensemble de mouvements qui nous découvre tout entier en mettant notre corps au centre de l'attention. Et pour le philosophe américain Richard Schusterman, si nous aimons danser ou si nous aimons voir les autres danser, c'est d'abord parce que cela nous fait plaisir, plaisir des sens, tous ensemble mobilisés à même un corps dont le mouvement accompagne le rythme de la musique. La confiance en soi, donc, qui se dégage d'un corps qui danse, et d'abord la confiance en la possibilité que notre corps soit source d'un plaisir esthétique. Mais ça ne s'arrête pas là. En libérant les mouvements du corps, la danse réconcilie le corps et l'esprit. Dans la vie courante, vous aurez remarqué, lorsque nous marchons, lorsque nous prenons les transports, lorsque nous sommes au travail ou à table, nous tenons notre corps dans un certain nombre de mouvements prescrits, de postures et de gestes conventionnels. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend aux enfants dès le plus jeune âge, à bien se tenir. Cela veut dire en fait à exercer du contrôle sur son corps. Grâce au rythme de la musique et au contexte festif, la danse nous permet d'expérimenter d'autres mouvements, d'autres postures, d'autres gestes. Ce n'est plus l'esprit qui tient le corps, mais c'est le corps qui retrouve sa puissance, qui exprime sa souplesse, sa coordination, qui fait confiance à ses sensations et qui, en faisant tout cela, eh bien, transforme la conscience que nous avons de nous-mêmes au point qu'on peut se sentir le plus beau ou la plus belle au milieu de la piste de danse. Et donc ces pistes de danse sont des lieux où nous pouvons faire des expériences différentes, nouvelles et variées de notre incarnation, de la relation entre notre corps et notre esprit. Et c'est peut-être ça qu'il y a d'irrésistible. La danse défait nos postures ordinaires pour nous rappeler toute la richesse de mouvements dont nous sommes capables. Elle est une expression de notre liberté, mais d'une liberté incarnée, battante, vivante et donc joyeuse. Et même quand elle est codifiée, alors avec des pas réguliers, eh bien elle continue de défaire et de varier les mouvements et les postures de la vie ordinaire. On comprend mieux pourquoi le philosophe Nietzsche disait qu'il fallait considérer comme perdue une journée où l'on n'avait pas dansé. L'importance et la puissance de la danse, c'est de nous rappeler que la vie ne se réduit pas à un ensemble de rythmes biologiques, mais que la grande vie commence au contraire au rythme de ces danses qui nous en libèrent.
Et vous, Thibaut de Saint-Maurice, vous adorez danser sur ça?
Évidemment, Clo-Clo, enfin! J'étais surpris qu'on n'en ait pas encore parlé.
Quel genre de danseur êtes-vous, Thibaut de Saint-Maurice ?
Ah, moi, je suis un excellent danseur, évidemment, excellent au point de créer le vide autour de moi sur la piste de danse. Et finalement, je finis par me rasseoir et je regarde les autres danser.
Claude François, c'est du disco ?
Ah oui, celui-là, oui. Alexandre et Alexandra aussi. Il y en a deux, trois autres hein, quand même. Hein, c'est pas seulement ceux-là.
Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Maurice. On retrouve évidemment votre chronique sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Daniel Jerkens, directrice de la rédaction de Elle à table. Alors ma chère Danielle, une recette tirée du dernier Elle à table, encore en kiosque, avec à la une les plaisirs de l'hiver. Et vous avez choisi, alors pour être honnête, j'ai choisi un gratin de poulet, sauce tomate épicée et mozzarella.
Oui, c'est-à-dire ce qui est à peu près de plus riche, de plus fondant et de plus gourmand. Alors, j'ai un peu l'impression d'arriver comme une perruque dans la soupe suite... alors, je ne sais pas si je vais vous faire la recette en dansant. En fait, l'idée, c'est un plat effectivement extrêmement réconfortant qui vous suffit de servir avec une baguette, ça sera très très bien. Alors, on va faire danser dans une casserole un oignon pelé haché avec une gousse d'ail et une cuillère à café de flocons de piment. Lorsqu'ils sont devenus translucides, vous rajoutez un poivron coupé en morceaux et vous poursuivez la cuisson pendant 5 minutes, en tournant évidemment. Vous allumez le four et pourquoi pas la radio, pourquoi pas d'ailleurs une playlist de disco. Vous rajoutez la passata dans la casserole, un petit peu de thym, l'équivalent d'une cuillère à café de feuilles de thym. Vous faites tourner, vous salez pour poivrer et ça mijote pendant 15 minutes. De quoi danser, au moins quoi, 5 morceaux à peu près en moyenne. Vous rajoutez tout à fait à la fin à peu près 2 cuillères à soupe de mascarpone pour rendre tout ça beaucoup plus crémeux. Et vous réservez. Dans une deuxième poêle, vous faites revenir 600 g de filet de poulet coupé en morceaux, doré 10 minutes avec un peu d'huile d'olive. Et vous disposez le tout dans un plat gratin, c'est quand même assez facile. Pour alléger, on rajoute de la mozzarella,
125 grammes, allons-y
gaiement.
Par-dessus,
oui, tout en haut. On ajoute également du pecorino râpé. On termine avec tout cela dans le four. Vous attendez juste que la mozzarella fonde soit dorée. Ça prend en gros une dizaine, quinzaine de minutes. Et à la sortie, histoire de rajouter quand même une touche de végétal, je dirais qu'une petite dizaine de feuilles de basilic frais vont suffire à apporter un tout petit peu de fibre. Et vous mangez et vous dansez. Vous dansez beaucoup d'ailleurs pour vous en remettre.
Oui, et je pense qu'il va falloir aller en boîte après. Ou peut-être un plat à déguster après une soirée en boîte.
Oui,
à 5h du matin.
Au petit matin.
Au petit matin.
Oui, mais quelqu'un le prépare pendant que je danse. Daniel, tu veux le préparer et puis quand je rentre de boîte.
Je peux le préparer et aller danser avec toi, par contre.
D'accord.
Le gratin de poulet, sauce tomate, épicée et mozzarella, eh bien, c'est une recette à retrouver dans le tout dernier Elle à table. Tout de suite, la chronique Mauvaise langue de Sandra Colombe.
France Inter.
Bon, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rend bien vous fasse.
C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens. Mais effectivement, elle est gentille.
Elle porte un haut à paillettes bleu clin et une perruque rose. Sandra Colombo.
Oui. Et je ne veux pas être mauvaise langue, Ali, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de faire une émission très contre-productive ce matin ? Est-ce qu'on ne va pas donner envie aux gens d'aller habiter dans les années 70 ? Bon, en même temps, c'est peut-être ma tendance naturelle à l'anxiété, hein, qui me fait souvent prendre une bouteille pleine pour un verre aux trois quarts vide, qui me provoque ça. Mais mon petit doigt me dit que beaucoup de nos auditeurs ont actuellement une furieuse envie de s'appeler Gérard ou Monique, de porter des pattes d'eff et des cols pelle à tarte et de se déhancher langoureusement sur cette musique à 120 battements par minute. Parce que même si on le sait, dans les années 70, tout n'était pas rose. C'était même parfois Sunday, Bloody Sunday, voire carrément noir pétrole à cause de la Moco Cadiz. Mais Lucy était in the sky with diamonds. L'avortement était légalisé et c'était une telle avancée sociale qu'on avait l'impression qu'on ne pourrait jamais revenir en arrière. Lol. Mère Teresa avait le prix Nobel de la paix et on croyait encore que l'abbé Pierre pourrait lui succéder. Et puis les années 70 étaient super, tout simplement parce qu'elles ont vu la naissance d'un certain nombre de gens autour de cette table. Et franchement, it's good to be alive, to be alive, to be alive. Ce matin, on a donc montré à tout le monde que vivre dans les années 70, c'est quand même vachement plus cool que de se fader les années 2020. Et si vous ne me croyez pas, je vous propose un petit test bien facile à faire. Réunissez dans une même pièce des personnes ayant pour caractéristique principale, l'amour du râlage. Bon, c'est pas difficile à trouver, hein, ça s'appelle des Français. Je vous avoue que c'est encore mieux si ce sont des Parisiens, ces petits êtres luttant pour maintenir leur suprématie en haut de l'échelle de la malpolitesse. Puis, faites péter les meilleurs tubes disco et observez ces phénomènes étranges. Sourire se dessiner, cucu se trémousser, joie exploser. Et plus l'expérience se poursuit, plus vous verrez les gens se mélanger, se déhancher, faire fi de leurs différences, bonjour madame, bonjour monsieur, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et puis ça va se mettre à choper et pas que la fièvre du samedi soir. Non mais vous imaginez, mais qu'est-ce qu'on va devenir si on a tous une furieuse envie de remettre des paillettes dans nos vies? Si on rêve d'extravagance et de chemises en satin violet? Mais que vont devenir tous ces étroits d'esprit quand ils vont découvrir qu'avant d'être récupérés par Donald Trump, les village people étaient les égéries de la communauté gay et que In the Navy ne parle pas d'entrer dans la marine, mais bien dans le marin. Que va-t-on faire de tous ces gens nourris à la haine de l'autre, du différent? Parce que le disco, c'est quoi? C'est avoir les boules, oui, mais à facettes. C'est lutter ensemble contre la noirceur du monde. C'est briller et faire la fête ensemble. Ah bah tu m'étonnes que ça cartonne. Mieux que le monde selon Trumpsk, le monde selon Gloria Gaynor. Alors je vous le dis, au risque de passer pour une c'était mieux avantiste, le dernier jour du disco, c'est pas pour demain. Car même si First I Was Afraid, quand Winter is Coming, et que I Was Petrified, quand j'apprends que Jul vend des millions d'albums, depuis que j'écoute en boucle ma playlist Disco Forever, j'ai retrouvé l'espoir. Et ça, les obscurantistes, ils aiment pas. Non, ils préfèrent nous enfermer dans la peur et dans les dogmes. Ils préfèrent nous faire croire que Twitter, c'est mieux que Glitter. Alors, allons enfants du disco, dansons comme des fous, repoussons le chaos, ne nous mettons pas au garde à vous. Au nom du glitter, du jouissif, des extravertis, diadème.
Merci beaucoup Sandra Colombo. Tous les épisodes de Mauvaise Langue sont à écouter sur l'appli Radio France et on vous retrouve en spectacle mardi prochain dans Que faire des cons au point virgule
à 21h15
à Paris. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien vous fasse. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Guimette, Sandra, Daniel et Christina. Merci Victorine des Oliveira. On vous retrouve dans Philosophie Magazine. Merci beaucoup Belkacem Méziane.
Merci à vous. Merci pour cette invitation et ce petit moment bien agréable.
Disco 100 hits de 1972 à nos jours, c'est publié aux éditions Le Mot et le Reste. N'oubliez pas de courir voir l'expo Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris jusqu'au mois d'août. Et puis il y a également le livre richement illustré tiré de l'expo et édité par La Martinière. Et la journée disco se poursuit évidemment toute la journée sur France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lysiane Larbani et Cyrine Benyounès, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation David Leprince, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, comment retrouver la bonne humeur dans la grisaille météorologique et informationnelle? Nous recevrons deux psychiatres et une chercheuse en neurosciences pour surmonter ces temps anxieux. Gêne.